Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir, komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Ce mercredi, nous allons, comme annoncé, évoquer le thème Femmes et Sida en compagnie de Marie-Jo Glardon, qui est coordinatrice pour la Suisse romande du programme Femmes et Sida dans le cadre de l'Office fédéral de la santé publique. Nous recevrons aussi, mais un petit peu plus tard, Brigitte Studer, qui travaille dans le groupe Sida Genève. Et Viviane et moi, eh bien, nous essaierons de leur poser toutes les questions les plus pertinentes pour essayer de, une fois de plus, rentrer dans cette question grave, cette question auquel nous ne devons absolument pas nous soustraire, mais il est aussi important de savoir comment utiliser les documents, les programmes qui sont organisés pour participer à la prévention de cette maladie. Alors, tout de suite, rencontre avec Marie-Jo Glardon. Les risques d'infection est-il plus grand chez les femmes? Y a-t-il un risque d'infection pour les couples mariés et ceux qui vivent une relation stable? J'ai l'impression que mon mari ou compagnon n'est pas fidèle. Faut-il aborder le sujet? J'aimerais que mon partenaire utilise le préservatif. Comment y parvenir? Y a-t-il un risque de transmission dans les rapports sexuels oraux? Oui, la transmission du virus peut se passer lors de l'éjaculation dans la bouche. J'ai peur d'être infectée. Que dois-je faire?
You'll laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here, you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. but gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Marianne Faithfull, le boulevard des rêves brisés. Bienvenue Marie-Jo dans Remue Ménage, Radio Zone. Nous quittons à regret Marianne Faithfull, mais c'est pour aborder une question importante. Marie-Jo, donc tu travailles à l'Office fédéral de la santé publique et particulièrement dans le cadre du programme Femmes Santé, Femmes et Sida. Alors est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais nous faire un petit peu un bilan de la situation de la question SIDA et des femmes aujourd'hui dans le monde? On dit que les femmes sont de plus en plus touchées par cette maladie.
Alors voilà, oui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme et d'autres initiatives, c'est en réponse au fait que les femmes sont de plus en plus touchées. L'épidémie, elle a maintenant 15 ans. Et puis, c'était quand même une grande majorité d'hommes qui étaient touchés au départ. Et de plus en plus, ce sont des femmes. Il y en a aujourd'hui sur la planète, c'est 40% des personnes séropositives ou malades du sida qui sont des femmes. Et malheureusement, cette proportion est encore en train de continuer à augmenter parce que le mode de transmission du virus par voie hétérosexuelle devient le premier mode de transmission, parce qu'au début il y avait quand même beaucoup par voie homosexuelle, seulement les homosexuels ont appris à se protéger. Il y a aussi toujours par injection de drogue ou bien de la mère à l'enfant, c'est les différents modes de transmission. Mais le mode de transmission hétérosexuel est de plus en plus important, donc il faut s'adresser particulièrement aux femmes. Et alors au moment où on a pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire en direction des femmes au niveau de l'information, de la formation et d'augmenter leur capacité, leur conscience de se protéger. Quand on a décidé de faire ça, on s'est aperçu que finalement le discours de prévention, comme ça très neutre, qui dit voilà, on utilise le préservatif, utilisons le préservatif.
Quand tu dis neutre, ça veut dire adressé aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Voilà, adressé aux hommes. Alors, et en fait, les hommes se sentent concernés beaucoup plus par un discours neutre que les femmes. Les femmes ne s'y retrouvent pas parce que finalement le discours neutre, il est en général masculin. Enfin, c'est bien connu dans des tas d'autres secteurs. Et puis c'est aussi le cas finalement des messages de prévention. Ça, c'est le côté message, mais il y a d'autres choses à faire évidemment pour prévenir et pour former les femmes.
La prise de conscience qu'il faut s'adresser spécifiquement à des femmes, aux femmes, Marie-Jo, est-ce qu'elle est générale, c'est-à-dire on la trouve dans tous les pays, ou est-ce que la Suisse a pris une conscience particulière de ce point de vue-là?
Disons que c'est quand même venu d'abord de l'étranger, parce que là où le risque se développe énormément chez les femmes, je pense que vous connaissez la situation en Afrique, c'est absolument dramatique, là on a vraiment des chiffres effrayants qui arrivent, qui disent que, je sais pas, il y a une femme sur 20 dans certaines villes qui sont séropositives, ou dans certains quartiers de la ville. Donc une épidémie qui se répand à une allure incroyable. Donc évidemment que c'était d'abord, disons, la prise de conscience femme, je crois qu'elle a d'abord eu lieu dans les pays pauvres. Et maintenant on essaye, quoi, de le faire. Et puis je pense que le fait de faire un programme en Suisse, ça a été vraiment issu du mouvement femmes, c'est-à-dire chaque fois, maintenant, aujourd'hui, quand on fait un programme en général de santé publique, de plus en plus on se pose la question, mais est-ce que ce programme correspond aux besoins des femmes? Est-ce que les femmes sont touchées par ce programme, et en quoi? Est-ce que les méthodes adéquates ont été adoptées pour que les femmes soient touchées? Alors c'est des questions qui sont neuves. C'est vrai qu'il y a moins de 10 ans qu'elles sont un peu passées dans les mœurs. Et puis il y a des femmes très courageuses à ce moment-là qui amènent des éléments et qui expliquent et qui argumentent pour qu'on consacre des moyens particuliers pour les femmes. C'est jamais gagné d'avance, c'est toujours un travail de où il faut beaucoup convaincre. Et c'est, dans mon travail, je le ressens très souvent, quoi.
Mais pour en revenir à cette problématique des femmes de plus en plus infectées, du fait que vraiment ça touche énormément de femmes, et surtout quand tu dis dans des pays d'Afrique, on a l'impression que cela est vraiment lié à leur situation d'infériorité sociale, parce que c'est vrai que la prévention qui passe par le préservatif, il faut convaincre l'autre, son partenaire, il faut convaincre l'homme. Est-ce que c'est vraiment lié à ça, au fait que les femmes n'arrivent pas à imposer le préservatif aux hommes?
Ah ben oui, ça chuchu. Disons, il y a d'abord la sous-information complète. Il y a le fait que quand on est dans une situation vraiment grave de misère et de pauvreté, on ne peut pas avoir une culture de prévention. On a d'abord la culture de la survie. Il y a le fait que même si le préservatif ne représente pas une immense dépense pour le genre de porte-monnaie qu'on a en Suisse, il représente de l'argent, il n'est pas toujours d'ailleurs accessible de qualité dans bien des endroits. Donc c'est la catastrophe, quoi. Parce qu'il y a quand même, même dans le milieu de la prostitution, on n'a pas pu arriver, disons, à une culture de prévention du sida comme maintenant ça se pratique chez les prostituées qui ne sont pas complètement paumées et marginales, disons. Ben ça, il n'y a pas en Afrique. Donc c'est vraiment...
Et puis, je pense que
c'est loin d'être gagné.
Le problème qui se pose aujourd'hui, tu citais le cas des homosexuels ou des toxicomanes, qui effectivement sont des groupes
à risque. On dit ce qu'on dit comme ça, les groupes à risque.
Qu'on appelait des groupes à risque, mais qui sont de fait quand même des groupes sociaux qui ont certains lieux, qui ont certains repères, qui se retrouvent comme groupes. Les femmes aujourd'hui...
Elles sont où?
Et comment les atteindre? Et est-ce qu'elles forment vraiment un groupe qui puisse assumer en tant que groupe une prévention comme on peut faire les homosexuels?
Voilà, où il y aurait véritablement des relais. Alors, par exemple, dans notre programme, on dit qu'il faut passer par les associations féminines, par tous les endroits où les femmes sont... Mais on ne peut pas dire que ce sont des relais culturels aussi forts que, par exemple, un groupe gay ou... Je ne crois pas que ça a la même force. Il faut chercher. Donc, par exemple, une des tâches importantes du programme, c'est diriger sur les jeunes filles. Donc, il faut trouver les lieux où ces jeunes filles sont atteintes, parce qu'elles ont vraiment besoin d'une information encore plus importante. Alors qu'on cherche l'éducation sexuelle, alors là, il y a tout un travail. Il y a la consultation gynécologique, c'est des lieux clés où la réflexion, la prise de conscience peut avoir lieu si elle est un tout petit peu encouragée. Donc, il faut former les éducateurs sexuels, il faut former les gynécologues, il ne faut pas arrêter. Et ça, c'est disons, avec les femmes, il faut lier la prévention du sida, il faut la lier à la contraception. Et ça, pour les groupes sida, ça a été une découverte complète. C'est notre programme qui leur a expliqué, si vous voulez atteindre les femmes, il faut passer par la contraception. Il y a la thématique entière de la contraception, et puis le préservatif, il est dedans. On se protège à la fois des grossesses non désirées et du risque des MST. C'est un travail global. Alors ça, c'était complètement nouveau. Les groupes SIDA n'avaient pas l'habitude. Et il y a plein d'endroits où on fait de la prévention SIDA où on n'avait jamais envisagé cette approche globale. Mais disons, sur la question des milieux où on va trouver les jeunes, alors ça, c'est tout le temps à renouveler. Il faut chaque fois trouver. Il y a par exemple des actions qui se font comme ça, un peu coup de poing, avec des flyers et puis un stand et tout ça. Puis ça peut se faire dans des concerts, ça peut se faire dans les manifestations diverses et multiples du samedi soir. Il faut aussi faire des choses comme ça, c'est sûr.
Vous marquez dans votre petit dépliant sur lequel figurent les 6 questions que j'ai lues tout à l'heure, Marie-Jo, qui sont les réponses aux 6 questions que posent le plus souvent les femmes et que vous distribuez très largement, qu'il importe que toutes les femmes dans toutes les régions de Suisse puissent accéder à des conseils compétents sur ces questions. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi le spécifier? Est-ce qu'il y a des inégalités très importantes selon les régions de Suisse, les cantons, les cultures, etc.?
Complètement. Alors ça, c'est ça que notre programme met en évidence, et puis c'est assez fabuleux. On a travaillé avec les plannings familiales, parce que c'est quand même un lieu où beaucoup de gens viennent. Par exemple, les femmes étrangères, elles consultent les plannings familiales, les femmes qui connaissent moins ou qui passent par des services sociaux, on les amène au planning parce qu'on pense que ça sera mieux expliqué au planning que chez un gynéco privé. Donc c'est des lieux très importants pour toutes sortes de personnes, ou bien les jeunes filles en difficulté et tout ça. Et puis il y a des tas de cantons où le planning est inexistant, sous-développé, sous-dimensionné, donc gravement manquant. Donc, alors, ça, c'est un des gros programmes qu'on a en route, c'est de dynamiser un petit peu les lieux de santé sexuelle accessibles et corrects pour les femmes. Puis c'est totalement... Alors, c'est la disparité cantonale, elle est grossière. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que là, je suis dans un paradoxe, parce qu'habituellement, les Romos sont minoritaires, sous-développés. Donc là, je suis donc la coordinatrice romande d'un programme suisse. Et puis là, tout l'effort principal par rapport au sous-développement, il doit porter sur la plupart des cantons de Suisse alémanique. Donc là, je suis un petit peu mal placée pour ramasser les budgets, quoi.
Pourquoi ? Parce que c'est plutôt des cantons ruraux ou pour alors, des raisons de religion
mais
ou...
Il y avait une excellente brochure, je ne sais pas si vous avez vu, qui était parue. C'était donc l'Association suisse pour décriminaliser l'avortement, l'USPDA, l'Union suisse, qui avait sorti une brochure avec l'ASDAC. Et ils avaient classé les cantons libéraux, les cantons rétrogrades et les cantons moyens. Donc, il y avait trois sortes de cantons. Alors, les cantons rétrogrades, ce sont des cantons qui, à la fois, n'ont pas d'application sympa au niveau de l'avortement, c'est-à-dire, en fait, ça favorise le tourisme, l'avortement en dehors du canton, parce qu'il n'y a rien qui se fait dans le canton. Ça, c'était complètement rétrograde. Puis, ce sont les mêmes qui n'ont pas de planning. Donc, ça, c'est le réduit du centre. Il y a des cantons catholiques qui sont très très peu développés, par exemple entre Saint-Gall et Appenzell, ça couvre une grosse partie de la population, et puis ils ont une personne pour faire le planning familial pour tout le canton, avec un accord entre Saint-Gall et Appenzell qui n'ont même pas, ils ont un planning pour deux cantons, et puis c'est tout. Puis les régions paumées, etc., rien. À Coire, il y a un planning familial très sympa, très bien fait, et puis tout le reste des vallées, il n'y a rien du tout, donc les gens qui sont perdus au fond des vallées, alors qu'en Valais, c'est très développé, il y a 8 centres. Il y a 8 centres de planning en Valais, et il y en a un à Coire, pour dire que... Donc, pour le canton du...
Des Grisons.
Donc, pour dire qu'il y a des disparités alors énormes sur la manière de voir les besoins des femmes à ce niveau-là, quoi.
Ton travail consiste entre autres à informer. On a ici une série de petites brochures et de dépliants qui sont issus de ton travail. Ça consiste également à sensibiliser et à former. Tu parlais de l'éducation sexuelle et des gynécologues. Alors par exemple, quel type de formation, quel type de concept tu essayes de faire passer auprès de ce public ?
Bon, alors les conseillères en planning familial sont très bien formées. Donc elles ont l'habitude d'introduire le risque du sida dans la réflexion stratégique de la personne quand elle arrive. Elle cherche une contraception, on lui fait réfléchir à son niveau au niveau de confiance et qu'elle a dans son couple, au risque sida, en même temps qu'elle a le genre de contraception qu'elle désire prendre. Par contre, les gynécologues, on sait, parce qu'il y a quand même quelques enquêtes qui ont été faites là-dessus, on sait qu'ils abordent peu ou pas le sujet. Et quelquefois, ils nous répondent froidement que... Donc, on a fait quelques petites enquêtes en complément d'autres choses qui avaient été faites par des instituts de médecine sociale et préventive déjà avant. Ils nous disent carrément, par exemple, que leur public n'est pas un public à risque. Mais au monde, où ils vont chercher ça ? Je veux dire, ils pensent comme ça que les femmes qu'ils voient sont des femmes d'une certaine classe sociale, avec une vie conjugale réglée, et que jamais elles ne doivent être mises comme ça en garde. On ne met pas en garde, ma clientèle n'a pas besoin d'être mise en garde. Alors bon, avec des... Et puis il y en a d'autres, alors qu'ils sont plus modestes, ils disent « j'aime pas aborder le thème de la sexualité avec mes patientes, je le fais rarement, je le fais que si j'estime ça absolument nécessaire ». Enfin, il y a une série de choses qui montrent que dans moins de 20% des cas, lorsqu'une cliente chez un gynécologue vient pour aborder le thème de la contraception, elle est véritablement incitée à réfléchir une seconde sur le risque sida. Ça serait tout simplement de dire, voilà, est-ce que vous avez des risques ? Est-ce que vous pensez à vous protéger ? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'usage du préservatif ? De même que, je ne sais pas, tout simplement, ces gynécologues, ils n'ont pas commandé la brochure. Il faudrait, donc là, on a le petit dépliant. C'est nous qui devrions leur envoyer gratuitement. Enfin, ça, on le fait, hein, l'envoi gratuite. Mais on devrait envoyer aux gynécologues. On ne va pas s'attendre à ce qu'ils commandent des brochures pour leur cabinet. Donc, il y a, disons, la culture de la prévention, il faut tout faire. Alors, ben, y a des tas d'initiatives qui sont prises pour des journées d'études, des brochures de sensibilisation, des articles qui sont écrits à l'intention des gynécos. Mais on peut dire que le travail est encore complètement à faire parce que c'est, actuellement, on ne peut pas dire que les gynécos sont adéquats.
Je ne savais rien de vous, rien du tout, que les sens dessus, dessous, désir fou. Une seconde porte-vous, sans rien dire, pour que je sois tout à vous, rien qu'à vous. Plus rien de moi ressemblait à mon miroir. Je ne savais plus où j'étais. Je me suis perdue de vue dans le lit d'un autre ciel, par où l'amour s'infidèle plus fort. Je ne savais rien de vous, rien du tout. Dans ce rien, j'ai donné tout, tout donné. Plus rien des heures ressemblait à mes nuits blanches. Je ne savais plus où j'étais.
Gisèle Ratzé dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, nous parlons femmes et sida en compagnie de Marie-Jo Glardon, qui travaille dans le programme Femmes et sida, Femmes et santé, programme mis au point par l'Office fédéral de la santé publique. Et avec Marie-Jo, nous venons de faire un petit peu un parcours général de quels sont les objectifs de ce programme et ses diverses activités et quelle est un petit peu la situation parmi les femmes. Nous avons bien sûr envie de retourner dans le chapitre « Informer les femmes ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Marie-Jo ? Tu parlais avant d'un discours neutre qu'il ne convenait pas. Et que résolument il fallait adopter un ton pour parler aux femmes ou des informations spécifiques réservées aux femmes. Je ne sais pas si c'est la même, si vous tenez compte des deux choses, entre autres à propos d'éducation sexuelle. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est bien beau d'avoir des brochures, d'avoir des lieux d'information, mais qu'est-ce qu'on y dit et comment les femmes qui entendent ça, qu'est-ce qu'elles en font ?
Alors justement, on a notre petite dépliée en 6 questions. C'est vraiment le fruit d'une expérience. C'est-à-dire qu'il y a eu une permanence, il y a eu plusieurs initiatives de permanence téléphonique. Certaines ont spécifié ouvertes aux femmes et avec une femme au bout du fil. Donc, il y en a eu une à Zurich, une à Coire. Et c'était une initiative assez nouvelle aussi, qui est assez récente, ça date de 3 ans. Donc les 6 questions que posent le plus souvent les femmes, c'est le fruit d'une expérience, c'est le fruit d'un contact, c'est le fruit d'un travail téléphonique, quoi, en téléphone. Et puis bon, bah, y a l'histoire du test. Est-ce que je fais un test? Est-ce que je fais pas un test? J'ai eu un rapport risqué, qu'est-ce que je fais? Donc, elles ont dit, ben voilà, nous avons un téléphone pour les femmes et par les femmes. Et elles, au bout du compte, qu'est-ce qu'elles demandent vraiment? Qu'est-ce qu'elles veulent savoir le plus? Donc, je crois que ça, c'est de la bonne information parce qu'il y a eu du travail avant, il y a eu du contact, il y a eu de la discussion, il y a eu... Et puis, c'est comme ça que l'information, elle devient bonne parce que c'est pas... Bon, autrement, bon, évidemment, il y a le minimum, quoi. Mais je sais pas très bien ce qu'on
alors,
fait
est-ce
maintenant.
Que tu parlais de tu disais l'information ne doit pas être neutre, l'information elle doit être sexuée, c'est-à-dire c'est même pas une information spécifique pour les femmes, c'est-à-dire qu'hommes et femmes doivent recevoir chacun une information qui leur est destinée, qui parle de il et de elle, ouais. Et qui soit destinée.
Et puis si possible même des deux, parce que c'est là aussi, disons, ce qu'on a appelé après on a appelé la négociation dans le couple. Alors nous, dans notre jargon, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire comment est-ce que dans le couple se discute l'usage du préservatif, qui c'est qui commence, s'il y en a un des deux qui commence, est-ce qu'il arrive à convaincre son partenaire? Bon, surtout alors, hein, on voit bien la situation de la femme, là, elle est spécifique, parce que la femme, elle va quand même dépendre de la volonté de l'homme encore plus que le contraire. Donc elle peut l'aider à mettre le préservatif, elle peut toucher, enfin l'encourager et tout, mais il faut quand même qu'il y ait une décision de sa part. Et s'il commence à dire qu'il n'en veut pas, alors la situation de dépendance de la femme, en général dans le couple, elle est quand même plus souvent du côté féminin que du côté masculin. Donc ça va aussi peser dans la discussion. Et puis alors, aussi l'idée romantique de l'amour, la croyance que son amant c'est vraiment quelqu'un qui va pas la tromper, quoi. On rêve plus, les femmes rêvent plus par rapport à l'amour romantique, l'amour fidèle. Donc elles auront aussi tendance à être moins réalistes. Alors ça, il y a des enquêtes qui le montrent, c'est pas seulement une vague idée en l'air. Les jeunes gens, quand ils sont interrogés entre 16 et 20 ans, ils utilisent plus souvent le préservatif dans leur rapport que les jeunes filles. C'est un fait. Alors on me dit, au début ça fait bizarre cette statistique, parce qu'on dit, mais comment ça se fait puisque c'est les mêmes rapports? Mais pas du tout, parce qu'on demande à la personne, la dernière fois que vous avez eu un contact sexuel, est-ce que vous avez utilisé les préservatifs? Et puis ça donne ça. Mm-hmm. C'est différent. Bon, pour un tas de raisons, hein, c'est parce qu'ils ont plus de rapports, ils ont plus de partenaires, etc. Mais quand même, ils sont beaucoup plus réalistes.
Mais disons.
Alors,
ça veut dire que par exemple, vous faites une information. On a parlé des cibles d'information. Tu as parlé des gynécologues. Vous avez aussi, vous touchez aussi ceux qui font l'éducation sexuelle dans les écoles. Mmh. Et vous essayez aussi de les persuader d'avoir deux discours ou peut-être même des séances de séparées.
Alors cette histoire d'information au féminin, elle se fait. Jusqu'à présent, c'est quand même encore assez rare, finalement, de s'adresser aux femmes par les femmes et pour des femmes. Il y a eu les téléphones, les permanences téléphoniques, mais on s'est dit, après tout, si on doit vraiment travailler au niveau de la jeunesse, posons-nous la question de comment ça se passe l'éducation sexuelle, un cours d'éducation sexuelle dans une classe mixte. Qui doit transmettre un certain nombre d'informations et de renseignements à un groupe mixte sur la sexualité sans finalement reconnaître que dans ce groupe, il y a les garçons, il y a les filles, il y a les garçons avec leur désir, leur identité de garçon, les filles avec leur identité de fille, et puis que ça, ça ne soit pas du tout travaillé, ni dans la dynamique de groupe de la classe, ni dans, dans la manière dont le message est finalement digéré, réfléchi, etc. Donc on a... Une des choses, j'ai pris cette initiative, puis j'ai trouvé que c'est d'ailleurs passionnant. J'ai invité les éducateurs sexuels à une journée de formation, puis je leur ai dit « qu'est-ce que vous pensez de la non-mixité ?» Alors on a fait une journée là-dessus, et puis il y a plein de choses qui sont sorties. Aujourd'hui, très rares sont les expériences d'éducation sexuelle où véritablement on divise de temps en temps les classes en deux groupes et où on travaille l'identité garçon, l'identité fille. Alors après, par rapport à l'usage du préservatif, ça a des conséquences, mais c'est par rapport à tout comportement sexuel. On peut faire un bien meilleur travail d'élaboration de qu'est-ce que c'est discuter avec l'autre sexe lorsqu'on a véritablement élaboré sur son propre sexe. Alors c'est toute une pédagogie, et ça intéressait beaucoup de gens. Ils n'étaient pas contre, mais ça a l'air quand même d'être assez tabou. On soulève là quelque chose qui n'est pas évident pour les éducateurs sexuels. Ils sont intéressés, mais il faut beaucoup pousser.
D'ailleurs, moi, je suis étonnée aussi par l'évolution de la campagne SIDA en général et de celle que vous proposez par rapport aux femmes. C'est qu'effectivement, au début, les campagnes SIDA parlaient du SIDA, mais rarement de sexualité. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il est difficile de parler de SIDA sans parler de sexualité.